Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son ministère, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc.
Dans un premier temps, nous allons écouter la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. Ensuite, Jean-Marc s'entretiendra avec Alain, afin d'en tirer les leçons les plus importantes.
La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
Merci Janine et bienvenue à Alain. Bonjour.
Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous.
Alors que nous progressons dans l'évangile de Marc, nous constatons que Jésus nous surprend souvent par les propos qu'il tient. Dans le texte lu, par exemple aujourd'hui, Jésus semble repousser sa propre famille et privilégier ses disciples.
À première vue, en effet, les paroles de Jésus surprennent, choquent même. Toutefois, je le pense, Jésus ne manquait nullement d'affection ni de respect envers sa propre famille. Il profitait simplement de cette occasion pour enseigner à ses disciples une vérité nouvelle, une pensée tout à fait inédite.
Laquelle ?
Jésus est venu dans le monde en vue d'établir un nouveau royaume et de régner sur un nouveau peuple. Il insiste alors sur le fait qu'au sein de ce nouveau peuple, les relations entre Dieu et les hommes seront nouvelles et qu'elles seront vécues en termes de relations familiales. À un autre moment, Jésus nous apprend que Dieu est pour celui qui marche avec lui un Père céleste. Et à présent, il nous enseigne qu'il considère ses disciples comme ses frères et sœurs. Alors à notre tour, nous devons considérer Jésus comme notre frère et les autres chrétiens comme nos frères et nos sœurs.
Qu'apprenons-nous du fait que Jésus nous considère comme ses frères et sœurs ?
La démarche de la mère et des frères de Jésus représente un exemple de ce que nous devons retenir. La famille de Jésus avait sans doute appris que Jésus était surmené. Elle avait certainement entendu que beaucoup tenaient des propos fort déplaisants ou méchants à son sujet. Alors sa famille se souciait de lui. Elle craignait pour sa santé. Elle avait peur qu'il soit en danger. Sa mère et ses frères sont donc venus le chercher dans l'espoir, probablement, de le convaincre de se reposer à la maison, dans le but aussi de le protéger de ceux qui lui voulaient du mal. Toute famille normale est unie, et les liens d'amour que l'on y trouve sont particulièrement forts, solidaires et uniques. La famille est le lieu où l'on veille les uns sur les autres, où l'on exprime son soutien, où on se soucie de l'autre et où l'on réalise tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. De fait, Jésus, en s'adressant à ses disciples, leur explique ceci. « Parce que vous êtes mes frères et mes sœurs, l'amour que vous vivez au sein même de votre famille, vous le vivrez aussi avec moi. Mais sa dimension sera plus forte encore, sa puissance plus profonde. »
En effet, nous comprenons toute l'importance des paroles de Jésus qui sont extraordinaires.
Oui, Jésus s'est révélé comme le roi tout-puissant. Il a guéri des malades, a chassé des esprits mauvais. Il a accompli une multitude de miracles extraordinaires et merveilleux. Il aurait pu, de ce fait, susciter une certaine crainte à cause de son pouvoir. Ses auditeurs devaient s'imaginer qu'un tel être, parce qu'il était puissant, devait être distant, voire hautain et dédaigneux. Or, c'est tout le contraire que nous constatons. Par ses actes, Jésus a dévoilé une incommensurable compassion, et à présent, par ses paroles, une fois de plus, il nous prouve cet amour. Jésus est proche de son peuple. Il veille sur lui comme le fils aîné veille sur le bien-être de ses frères et sœurs. De plus, Jésus nous invite à vivre avec lui une relation privilégiée et bienfaisante.
Mais comment donc jouir de cette relation ?
Selon le texte lu, Jésus considère tous ceux et celles qui font la volonté de Dieu comme ses frères et sœurs.
Donc, pour faire partie de la famille de Jésus, il faut faire la volonté de Dieu ?
C'est exact, Jean-Marc.
Mais en quoi consiste faire la volonté de Dieu, exactement ?
Lors d'une émission précédente, nous avons parlé du message essentiel annoncé par Jésus. Changez et croyez en la bonne nouvelle. Or, la voilà la bonne nouvelle. Jésus est le roi sauveur promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et faire la volonté de Dieu, c'est croire en lui. C'est reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est vouloir le laisser régner dans sa vie. Il est intéressant de noter que ce texte que nous étudions aujourd'hui est suivi d'une parabole, celle du semeur. Or, cette parabole nous éclaire sur ce que Jésus voulait dire en déclarant qu'il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu.
Expliquez-nous en quoi cette parabole nous aide à comprendre qu'il faut que nous fassions la volonté de Dieu.
Dans la parabole, nous rencontrons un semeur qui lance des graines de blé un peu partout dans l'espoir de produire une récolte. Or, certaines graines ne produisent aucun fruit car elles tombent en des endroits où elles ne peuvent pas se développer, tandis que d'autres produisent une bonne récolte. Puis Jésus a expliqué cette parabole qui illustre des vérités spirituelles fort importantes. Le semeur représente Jésus, et les graines, la bonne nouvelle, son enseignement. Jésus, à travers son enseignement, désire produire un fruit dans notre vie. Toutefois, ce fruit, qui est l'expression d'une vie transformée, ne se verra que si certaines conditions sont réunies.
Alors, dans quelles conditions le message de Jésus peut-il produire un réel changement de notre vie ?
Une lecture attentive de la parabole nous apprend que l'enseignement de Jésus portera du fruit dans la vie de quiconque l'écoute attentivement et le met en pratique.
Alors il nous faut écouter Jésus, faire confiance en sa parole et lui obéir.
En effet, lorsque la famille de Jésus est venue le chercher, ils l'ont trouvé entouré de personnes qui l'écoutaient attentivement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus considérait ces personnes comme ses frères et ses sœurs. Accomplir la volonté de Dieu peut être considéré comme un sujet vaste, peut être complexe. Toutefois, si nous écoutons l'enseignement de Jésus, alors nous découvrirons la volonté de Dieu pour nos vies, nous y puiserons la joie d'être son enfant et vivrons en tant que membre de sa famille.
Mais comment écouter Jésus aujourd'hui, puisqu'il n'est plus présent avec nous tel qu'il était à l'époque des premiers disciples ?
C'est vrai, Jean-Marc. Écouter Jésus, c'est lire son enseignement trouvé dans la Bible. C'est assister aux réunions d'église. C'est écouter à la radio des émissions chrétiennes, que sais-je. Rappelons-le toutefois, non seulement il est important d'apprendre ce que Jésus enseigne, mais il faut aussi le mettre en pratique.
Merci, Alain. Nous devons nous arrêter sur cette note fort importante et nous vous remercions pour votre participation tout au long de cette série sur le chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Nous rappelons à nos amis auditeurs que nous aborderons le chapitre 4 de cet Évangile lors de prochaines émissions.
Nous remercions Jean-Marc et Alain pour leur participation tout au long de cette série.
Et à présent, nous allons écouter une courte méditation biblique qui s'inspire des psaumes.
Comment être heureux ? Cette question reflète l'aspiration de beaucoup. Et avouons-le, tout ce que nous entreprenons dans la vie est motivé par ce désir de trouver le bonheur. Plusieurs psaumes, précisément, contiennent la formule « Heureux l'homme qui ». Formule suivie d'une vérité biblique, dont le seul but est de rendre heureux quiconque la met en pratique.
Ainsi, dans cette série de méditations bibliques, nous allons passer ces versets en revue en compagnie de Sébastien pour en retenir des leçons essentielles sur le bonheur. Aujourd'hui, nous allons écouter le psaume 41, versets 2 à 4, que voici.
« Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. » Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche.
à première vue, penser que le fait d'avoir un réel souci pour le pauvre peut rendre heureux a de quoi nous surprendre. La véritable compassion entre les pauvres se traduit en effet par des actions d'amour. Notre temps, notre énergie, jusqu'à notre argent peuvent être impliqués. Alors, pourquoi nous considérer heureux ou bénis si nous exprimons de l'amour envers les défavorisés? Selon ce psaume lu, Dieu agit tout particulièrement en faveur de ceux qui se soucient des pauvres. Pouvons-nous aussi affirmer que Dieu se montre encore plus proche de ceux qui agissent en faveur des pauvres? C'est ce que l'auteur du psaume semble déclarer. L'Éternel est-il plus disposé à nous défendre de nos ennemis si nous défendons les droits des faibles? Ce psaume semble affirmer cela. Dieu est-il plus enclin à secourir ceux qui protègent les vulnérables? Ce psaume semble le dire. L'Éternel est attristé d'un monde partagé entre une minorité de riches et un grand nombre de pauvres luttant simplement pour survivre. Ce monde-là ne reflète pas les desseins de Dieu pour l'humanité. Il est le produit du péché, la conséquence de l'égoïsme de l'homme et de ses injustices. Dieu se soucie véritablement des pauvres et des vulnérables, même si la plupart sont victimes de circonstances qu'ils ne maîtrisent pas. Dieu les aime et il a leur intérêt à cœur. Alors, en venant au secours du pauvre, nous agissons selon les desseins de Dieu et nous accomplissons sa volonté. Nous marchons en harmonie avec l'Éternel et trouvons grâce à ses yeux. Nous œuvrons pour la réalisation de ses plans en faveur de ceux qui sont délaissés. Nous prouvons ainsi que nous sommes avec Dieu. Alors, lui aussi nous prouvera qu'il est avec nous. Il manifestera envers nous son amour fidèle. Il se révélera à nous. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons nous considérer heureux.
Merci Sébastien pour ces réflexions enrichissantes qui nous interpellent sur notre engagement auprès des défavorisés. Notre série se termine aujourd'hui.
Et la prochaine fois, nous écouterons un témoignage et nous en tirerons des leçons susceptibles de nous aider dans notre propre cheminement spirituel. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.